Bonjour à tous. Mais que se passe-t-il dans la commune du Barcarès, dans les Pyrénées-Orientales? Soupçons de pression sur des commerçants, de collusion entre argent public et intérêt privé. Depuis la fin des années 90, là-bas, les affaires se succèdent. Bonjour Jérémy Demey.
Bonjour Jacques.
Vous allez nous expliquer ce qui se passe dans cette commune. Et puis, nous recevrons Sébastien Roux. Bonjour également.
Bonjour.
Alors vous publiez un livre-enquête sur ce que vous appelez la fin de l'adoption internationale. Et vous nous expliquerez pourquoi les Français adoptent de moins en moins d'enfants qui sont nés à l'étranger.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin.
Avec ce concept de village de Noël, la ville de Barcarès a visé juste. Le bouche à oreille fonctionne, familles et amis s'y retrouvent. L'an dernier, 40 à 50 000 visiteurs pour certains week-ends. Le public dépasse le Grand Sud, il vient du nord de la France et même de Belgique pour séjourner au Barcarès.
Voilà un extrait d'un journal de France 3 diffusé en décembre 2017. On y vante les illuminations, les manèges, les parades qui transforment la commune du Barcarès dans les Pyrénées-Orientales en véritable parc d'attractions. Tout cela évoque alors la magie de Noël, sauf que depuis, eh bien la Chambre régionale des comptes et la section de recherche de la gendarmerie de Montpellier se demandent si certains de ces appels d'offres qui ont été passés dans le cadre de ce marché de Noël n'ont pas été irréguliers. Alors tout cela peut peut-être vous sembler anecdotique, seulement au Barcarès, ce genre de soupçon, c'est devenu un classique et au centre des affaires qui se succèdent depuis une trentaine d'années maintenant, eh bien on retrouve un homme, Alain Ferrand. Alors dites-nous pour commencer, Jérémy Demey, Alain Ferrand c'est qui ?
Alors Alain Ferrand c'est un homme de 62 ans, énergique, plutôt jovial, même s'il n'aime pas la contradiction. Il est passé de professeur de gestion dans une école hôtelière à Toulouse au début des années 80 à chef d'entreprise. Il est aujourd'hui à la tête d'une myriade de sociétés qui vont des casinos aux discothèques en passant par des restaurants et des hôtels de luxe, essentiellement en Afrique.
Et parallèlement donc, il a une carrière politique.
Oui, l'homme est classé à droite et il a jeté son dévolu sur le Barcarès. Il est d'abord conseiller municipal, puis il devient maire en 1995 et en 2020, il sera encore élu dès le premier tour avec près de 65% des voix.
Ouais, et puis il a un autre CV, mais un CV plus judiciaire cette fois-ci.
Oui, en 1999, Alain Ferrand est condamné pour abus de biens sociaux dans une affaire en lien avec ses casinos. Il écope alors de 3 ans de prison avec sursis et d'une interdiction de gérer des établissements de jeux. En 1998, il passe 24 jours en prison dans le cadre d'une autre affaire de prise illégale d'intérêt au détriment d'une société d'économie mixte. Et puis, plus récemment, dans le cadre d'une nouvelle affaire, il a été placé sous contrôle judiciaire, ce qui fait qu'aujourd'hui, il ne peut se rendre que 2 jours par semaine à la mairie et il doit quitter le département avant 19h.
Oui, les enquêteurs se demandent d'ailleurs s'il n'aurait pas, à cette occasion, mis au point un système pour éviter les contrôles.
Oui, alors ça, ce sont les policiers de Marseille qui le soupçonnent après avoir épluché des écoutes téléphoniques. Selon le témoignage de la secrétaire d'Alain Ferrand, lorsque des policiers se présentaient à la mairie, elle devait l'avertir en prononçant une phrase très particulière. Écoutez cet extrait d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui est assez éloquent.
La secrétaire du maire confirmait finalement que lorsqu'elle disait en conversation « l'écureuil est dans l'arbre », il s'agissait d'un code pour prévenir le maire de la présence des autorités de police.
Ouais, l'écureuil est dans l'arbre, mais qu'est-ce qu'on lui reproche précisément à Alain Ferrand ?
Eh bien, pour faire simple, depuis plusieurs années, le maire demande à des propriétaires de camping de participer aux frais de réaménagement de la route qui passe devant chez eux. Bref, il leur demande de payer pour des travaux qui sont engagés par la mairie, alors que ce type de travaux devrait théoriquement être financé par l'agglomération de Perpignan. Écoutez encore ce que dit sur ce sujet cet arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dont nous avons fait lire un extrait.
À la suite des travaux de voirie importants réalisés devant différents campings, le maire avait décidé d'exiger des exploitants de ces établissements une participation financière, calculée sur la base du coût de ces travaux. Le maire expliquait, lors de conversations téléphoniques, que les sommes exigées correspondaient aux travaux de voirie réalisés, considérant qu'il était parfaitement normal que les campings payent une part des sommes engagées compte tenu de la qualité des prestations fournies. Cette pratique n'était vraisemblablement pas limitée à la question des campings. Des sommes étaient également exigées aux exploitants de bars et de restaurants ayant une terrasse réalisée par la mairie pour l'installation de parasols.
Et des parasols qu'ils devaient louer exclusivement à la mairie.
Donc si j'ai un camping ou si je veux mettre des parasols sur une terrasse qui se trouve sur le domaine public, je dois payer ?
C'est ça. Alors, quelques campings s'y sont opposés, mais ils affirment avoir été victimes de mesures de représailles. La mairie aurait démarré des travaux devant leur site pendant la saison d'été, ce qui a rendu leur accès difficile. Et certains restaurateurs, qui ont refusé de louer des parasols de la mairie, auraient reçu des visites pas vraiment amicales. C'est du moins ce que soutient Sylvain Donève, l'avocat de plusieurs bars et campings du Barcarès. Il m'a expliqué en quoi, selon lui, pouvaient consister ces pressions.
Ces pressions, ça peut être le fait d'envoyer des agents de la police municipale régulièrement au sein du camping. Alors ce sont des subordonnés du maire, ils exécutent les directives du maire, ils sont parfois gênés, mais ils se rendent régulièrement dans le camping pour venir relancer les gérants, par exemple, ou ils se rendent dans le restaurant. Il y a le fait de proférer des menaces en disant, par exemple, que tel restaurant ne bénéficiera pas l'année suivante de son droit de terrasse et ne pourra pas occuper une terrasse sur une place publique sur laquelle la mairie consent des autorisations d'occupation du domaine public. C'est une ambiance généralisée où les desiderata du maire ne peuvent pas être contestés. Parce que derrière, il y a le couperet d'une sanction, d'un refus ou alors de désagréments dont seront victimes les exploitants.
Donc on aurait envoyé la police municipale pour faire pression sur des exploitants de camping ou des restaurateurs parce qu'ils refusaient de payer ?
Alors attention, l'affaire n'a pas encore été jugée, mais certaines des personnes concernées au premier chef semblent accréditer cette thèse. Écoutez par exemple ce que m'a raconté Philippe Rivière, qui est policier municipal au Barcarès. Il affirme avoir lui-même fait pression sur certains administrés.
On allait les harceler à travers la police municipale, oui, bien sûr, on y allait verbaliser, les harceler parce qu'ils dépassaient d'une table ou deux, ou enfin bon, c'était toute la journée et en permanence. On ne servait qu'à ça, de toute façon, puisque après le reste du travail, on ne pouvait pas le faire, puisqu'on faisait que ça. Ça nous est arrivé aussi au village, le Cacou, par exemple. On allait lui faire ressortir cette terrasse parce que il voulait pas payer l'allocation des parasols. Celui qui était pas content et qui voulait pas adhérer au système, alors celui-là, on finissait par le harceler à un moment donné, de toute façon.
On finissait par le harceler, mais Alain Ferrand, lui, il le reconnaît, ça ?
Alors non, je l'ai eu longuement au téléphone, il n'a pas souhaité s'exprimer officiellement, il m'a simplement dit « je n'apporterai pas la contradiction à mes opposants, je suis au-dessus ». Maintenant, je vous propose d'écouter tout de même ce que son épouse, Joëlle Ferrand, m'a expliqué. Elle a accepté de me parler de cette histoire.
Sur sa dernière affaire des campings, moi je lui avais conseillé de trouver un accord avec les campings, quoi. Hein. Je trouvais qu'il allait trop loin. Bon, moi, il m'a pas écouté. Ce bras de fer, en fait, n'amènerait à rien de bon, ni d'un côté, ni de l'autre. Et c'est vrai que c'est la commune qui en pâtit, quoi, hein, finalement.
Oui, donc elle dit qu'elle lui avait conseillé de lâcher prise.
Et oui, mais il n'a pas cédé, car il estime que les policiers municipaux n'ont fait que leur travail et qu'il est normal de demander une participation à des commerçants qui profitent d'aménagements financés par la commune. C'est d'ailleurs ce qu'il avait expliqué de vive voix à une télévision locale, TV4.fr, en juin 2021.
On me dit que j'ai utilisé mes prérogatives de maire pour faire une pression morale constante et permanente sur mes administrés dans le but de satisfaire mes exigences. Et accrochez-vous bien, en bande organisée. Alors, la bande organisée, c'est qui ? Le conseil municipal qui a délibéré ? C'est la police municipale qui fait son travail ? Ce sont les élus qui font leur travail ? Je ne sais pas. Aujourd'hui, on m'accuse de faits relativement graves, mais où il n'y a aucune raison objective de pouvoir qualifier ce genre d'accusation.
Et donc pour lui, il n'y aurait pas d'affaire, d'autant moins, d'ailleurs, on ne l'a pas entendu, mais ça fait partie aussi de cette interview, qu'il estime que tout ça avait été validé par le conseil municipal. Bon, maintenant, Jérémy, ça n'est pas la seule enquête qui est en cours sur la commune.
Non, il y en a une autre qui, elle, est menée par le SRPJ de Montpellier, qui concerne ce qu'on appelle l'électro-beach.
Et c'est quoi l'électro-beach ?
L'Electro Beach, c'est le plus gros festival de musique électronique de France qui accueille près de 200 000 spectateurs. A priori, rien à redire. Sauf que la justice se demande si Alain Ferrand ne s'est pas servi de ce festival pour faire prospérer ses propres entreprises.
C'est-à-dire ?
Eh bien, il y a deux rapports de la Chambre régionale des comptes qui reprochent d'une part au maire d'avoir eu recours à une société d'économie mixte, une SEM, baptisée EMF pour organiser l'Electro Beach. Mais surtout, d'avoir fait en sorte que ce festival prenne place là où se trouve sa propre discothèque, le Marina, ainsi que son restaurant Les Voiles Blanches. Bref, pour Didier Melmou de l'association Anticor qui a alerté la justice là-dessus, il y aurait là un mélange des genres.
Des événements en marge de l'Electro Beach, avec des conventions qui lient l'Electro Beach, qui lient la mairie du Barcarès et un prestataire privé. Ces conventions prévoient des animations au sein même de l'établissement du maire. Tous les festivaliers passaient devant sa boîte de nuit et forcément, ça générait forcément des entrées, des consommations, donc des bénéfices pour sa société. On a aussi des éléments sûrs et certains, avec des images à l'appui, de DJ qui étaient donc payés par l'EMF, qui ont fini leur soirée dans l'établissement de nuit. On a des échanges de mails où les responsables demandent carrément aux DJ d'intervenir à l'issue de leur concert dans la boîte de nuit. Et la réponse est, c'est pas un problème, de toute façon, ça appartient au maire.
Ah, donc le festival aurait pu permettre à Alain Ferrand de favoriser ses propres sociétés ?
En tout cas, on le soupçonne d'avoir eu recours à de l'argent public pour financer une activité qui, de fait, rapporte à ces sociétés. Et un témoignage auquel nous avons eu accès semble accréditer cette thèse.
Et un témoignage de qui ?
Eh bien, celui d'un homme qui, tout en travaillant pour un partenaire du festival, donc la société d'économie mixte EMF, organisait en même temps dans la boîte de nuit d'Alain Ferrand des soirées qu'on appelle des pool parties DJ Mag.
Des pool parties DJ Mag ? Et c'est quoi les pool parties DJ Mag ?
Ce sont des animations organisées autour de la piscine de la boîte de nuit. Et lorsque la justice a commencé à s'y intéresser, ce témoin a alors rédigé un courrier envoyé au procureur de la République de Perpignan dans lequel il raconte la scène suivante.
En 2018, M. Ferrand m'a conduit de force à la mairie car il m'a indiqué qu'il devait mettre en place un stratagème pour justifier l'organisation de nos pool parties DJ Mag. Il m'a retenu de force en mairie pendant plus de 6 heures, au cours desquelles j'ai dû expliquer ce que je faisais, comment je travaillais et pourquoi je me retrouvais ici à coordonner ces pool parties qu'il prétendait alors ne pas connaître. Il m'a forcé à aller dans le bureau du nouveau directeur de l'EMF afin que je rédige de force une convention le dédouanant de toute implication dans l'organisation des pool parties DJ Mag. J'ai donc rédigé sous la contrainte ce texte qu'il a ensuite signé. C'était la condition pour qu'il me laisse repartir de la mairie ce jour-là.
Ah, et donc lui affirme qu'on l'aurait forcé à dédouaner le maire.
Oui, alors ça c'est ce que lui soutient. Maintenant Alain Ferrand, de son côté, lors de notre entretien au téléphone, m'a certifié que cet épisode n'avait jamais eu lieu. Mais je rappelle qu'il n'a pas voulu que je l'enregistre.
Ah, et donc on ne pourra pas l'entendre sur ce sujet. Maintenant, et quoi qu'il en soit Jérémy, d'autres anomalies intriguent les enquêteurs.
Oui, notamment dans la comptabilité de l'UMF. En fait, la Chambre régionale des comptes a aussi identifié des dépenses inexpliquées, comme des voyages à l'étranger, par exemple à Las Vegas ou à Santa Monica. Elle a étudié cette comptabilité jusqu'en 2018, mais j'ai récupéré celle des éditions suivantes. Et en 2020-2021, on remarque qu'il n'y a pas eu de festival à cause du Covid, mais que la société UMF a continué de dépenser de l'argent.
C'est-à-dire ?
Eh bien, un exemple. Mills, un grossiste en boissons, a reçu pour 30 000 euros de commandes en 2020. Et en 2021, alors qu'il n'y avait toujours pas de festival, on lui a passé commande pour 130 000 euros. Bref, pour Didier Melmou d'Anticor, EMF, la société qui gère le festival, a des pratiques qui posent question.
On s'aperçoit clairement que la CMEMF achète des boissons et il y a des 200 000, 300 000 euros de boissons qui sont achetées. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas où ça va, on ne sait pas où c'est surtout. Parce que le problème, c'est que voilà, en 2020, où il n'y a pas eu de MF, il y a eu des achats, on ne sait pas où est la boisson. En 2021, idem, alors que l'événement n'a pas lieu, quoi, n'a pas eu lieu, donc il n'y a pas de raison de négocier avec cette société. Et on se retrouve avec des flux financiers qui rentrent, qui sortent, des avoirs, des non-avoirs, des repaiements, tout un tas de choses comme ça. C'est assez rocambolesque comme truc.
Oui, d'autant plus rocambolesque que la liste ne s'arrête pas là.
Non, les enquêteurs du SRPJ de Montpellier s'intéressent aussi à des mouvements d'argent liquide inexpliqués. En 2020, alors qu'il n'y avait toujours pas de festival, ce sont plus de 50 000 euros en espèces qui sont sortis de la société d'économie mixte qui gère le festival. Alors que près de 64 000 euros sont entrés en comptabilité. Et ce qu'on constate, c'est qu'en 2021, un volume identique de mouvements d'espèces a transité par les comptes sans qu'on comprenne à quoi il correspond.
Et à ça, Alain Ferrand, lui, il répond quoi ?
Eh bien, il m'a assuré qu'il n'y avait aucun problème, qu'aucune espèce n'avait circulé et que tout ce qui avait été fait l'avait été au service de sa ville. Ses avocats, de leur côté, ont précisé à la Chambre régionale des comptes que la SEM avait fait l'objet d'un contrôle fiscal qui, je cite, n'a donné lieu à aucune suite.
Oui, dont acte. Maintenant, vous avez identifié une autre pratique qui ne fait pas, elle, l'objet d'une enquête, mais qui pose aussi question.
Oui, il semble que pour certains chantiers, la mairie exigeait des entreprises qu'elles démarrent des travaux sans qu'elles leur versent un acompte de 20%, comme cela se fait habituellement. Et ceux qui s'y opposaient pouvaient avoir de mauvaises surprises. En tout cas, c'est du moins ce que soutient Stéphanie, une chef d'entreprise qui a préféré rester anonyme, mais qui nous a parlé de ses relations avec le maire.
Les deux, trois premiers chantiers, il a été correct, mais à partir du troisième, ça a été l'enfer. Il nous disait demain, il repoussait toujours à la semaine prochaine. On avait du mal à avoir ne serait-ce que la compte. Il fallait quand même travailler, démarrer le chantier, parce que sinon, c'était assez menaçant. Il faisait comprendre que je vais vous envoyer mon équipe, des hommes de main.
Ah oui, quand même. Et ça s'est terminé comment ?
Eh bien, elle dit avoir cédé. Le chantier a finalement démarré après la visite de quelques individus qui, selon elle, n'étaient pas animés de bonnes intentions.
Lorsqu'ils sont arrivés devant notre domicile, c'est vrai que c'était assez impressionnant parce que ils étaient plusieurs, dont deux étaient cachés, sur des points stratégiques, comme s'ils étaient prêts à l'assaut, quelque part. Le lendemain, on a dû retourner travailler au parc Arès. Nous faisions quand même le chantier afin d'être payés à la fin du chantier, mais c'était très compliqué de se faire payer.
Et après plusieurs épisodes de ce type, elle affirme avoir cessé de travailler avec la commune. Je précise que de son côté, Alain Ferrand dément avoir envoyé qui que ce soit pour faire pression sur elle.
France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Bien, alors maintenant qu'on a évoqué quelques-unes des affaires qui menacent le maire du Barcarès, Alain Ferrand, Jérémy Demey, bien regardons ce qu'il en est aussi de ses activités à l'étranger, et notamment en Afrique.
Oui, parce que tout en gérant le Barcarès, il dirige la branche hôtellerie de la PEFACO. La PEFACO, c'est une société qu'il a fondée avec un autre poids lourd des casinos, Francis Pérez, qui travaille principalement en Afrique francophone. Il gère donc des hôtels de luxe au Congo et au Togo, mais aussi plusieurs casinos. Ce qui fait que même s'il est interdit de gestion de casinos en France, eh bien, il en gère tout de même dans 8 pays. Le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Burundi, le Niger, le Congo, le Rwanda. Et pour la petite histoire, ces casinos sont baptisés Lydia Ludique. Lydia, c'est le nom d'un paquebot échoué sur la plage du Barcarès.
Mais la PEFACO, Jérémy, c'est pas cette société qui est citée dans l'affaire africaine qui menace Vincent Bolloré ?
Alors si, parce que c'est en perquisitionnant dans les locaux du groupe Bolloré Africa Logistique à Paris que les enquêteurs ont identifié un versement par la PEFACO de 450 000 euros à Jean-Philippe Dorent, qui est le responsable du pôle international de Havas, Havas qui fait partie du groupe Bolloré.
Et cet argent, il aurait servi à quoi ?
Eh bien c'est toute la question. La justice se demande s'il n'a pas servi à financer des campagnes électorales en Afrique. Mais l'avocat de la PEFACO explique qu'il s'agissait d'un simple prêt. Quoi qu'il en soit, le résultat, c'est que le nom d'Alain Ferrand s'est donc retrouvé dans ce dossier.
Oui, mais il reste tout de même un personnage périphérique de cette affaire.
C'est vrai. Et lorsque je l'ai interrogé sur cet épisode, il m'a précisé « Monsieur Bolloré, c'est lui, mais je ne suis qu'Alain Ferrand ». Maintenant, au-delà de son cas particulier, la question qui est posée en filigrane, c'est celle du rôle plus général que joue cette société, la PEFACO en Afrique. Écoutez ce que m'en a dit le journaliste d'investigation Nicolas Vescovacci.
La PEFACO entretient des liens directs avec les élites politiques, avec les présidents de ces pays, que ce soit au Congo, en Côte d'Ivoire, au Togo ou en Guinée, ce qui leur permet évidemment d'avoir une assise locale et régionale importante. Il est certain que dans ce microcosme qu'est l'Afrique de l'Ouest, on se prête de l'argent entre amis, car il faut bien mettre à disposition de l'argent. Et là, on parle forcément d'argent liquide, parce qu'en Afrique, on ne paye pas des frais de campagne présidentielle en faisant des chèques. Donc cet argent a circulé entre ces personnalités. En tout cas, la justice devra l'attester. Et ça nous permet, nous, de dire que des liens oligarchiques locaux sont forts et permettent de financer des campagnes électorales illégalement du point de vue de la justice française.
Voilà, donc ça c'est pour les éléments qui éclairent le contexte africain de notre histoire maintenant, et pour en revenir au Barcarès, Jérémy, aucune des enquêtes qu'on a citées jusqu'ici n'a finalement empêché Alain Ferrand de gérer sa commune comme il l'entendait.
Effectivement, alors il a parfois été condamné, mais il a toujours trouvé des astuces pour ne pas lâcher les rênes. Ainsi, lorsqu'en 1999, il écope de 3 ans de prison avec sursis et de 3 ans d'inéligibilité, c'est sa femme, qui est alors première adjointe, qui prend le relais. Et lorsqu'en 2010, elle est à son tour condamnée à 18 mois de prison avec sursis et 5 ans d'inéligibilité, on lui reproche d'avoir fait draguer le port du Barcarès pour rendre service aux frères d'un élu qui avait un bateau, eh bien, Alain Ferrand reprend la tête de la mairie.
Oui, il fait preuve d'ailleurs d'une grande agilité pour jouer entre ses mandats et les sanctions judiciaires.
Eh bien oui, on le voit très bien lors de la campagne des municipales de 2020. Il est alors placé sous contrôle judiciaire et il a interdiction de se rendre dans son département. Mais il va trouver une parade. Il va tenir meeting à Leucate. Leucate, c'est une commune qui est voisine du Barcarès, mais qui, elle, a l'avantage de se situer dans le département voisin de l'Aude.
Oui, finalement, tout ça fonctionnera, puisqu'il a été encore largement réélu en 2020.
Oui, ses administrés ne semblent pas lui tenir rigueur de toutes ses affaires, et ses ennuis judiciaires n'ont d'ailleurs en rien entamé ses ambitions politiques. Puisqu'une fois redevenu maire, il a brigué la présidence de la communauté urbaine de Perpignan.
Et ça a marché ?
Alors non, il ne l'a pas obtenu, mais en faisant monter les enchères, il a tout de même décroché un poste de premier vice-président. Tout se serait négocié lors d'une réunion qui a eu lieu en présence du président de la communauté urbaine, Robert Villa, et de l'ancien maire de Perpignan, comme nous le raconte Jean Villa, qui lui est élu communiste de cette communauté.
Finalement, un accord a été trouvé. C'est de céder à ses demandes d'être le premier vice-président et responsable de l'économie, etc., et le tourisme et tout le reste. Et là, il y a eu le vote du président et vice-président, tel que ça avait été défini, avec un accord tacite du Front National. Ce qu'on sait de la réunion, c'est que l'ancien maire Jean-Marc Pujol a fait comprendre à Ferrand qu'il serait aujourd'hui l'instrument du Front National, étant donné qu'il pesait que 16 voix, les autres en pesent 31.
Ouais, donc, quoi qu'il en soit, il est encore monté en grade hein, au plan politique. Et la suite, Jérémy, c'est quoi ?
Eh bien, localement, Alain Ferrand semble indéboulonnable. Mais ses ennuis judiciaires pourraient bien le rattraper. Alors là-dessus, il m'a expliqué au téléphone qu'il fallait arrêter de démolir son action, qu'il est un bâtisseur et qu'il ne répond pas aux attaques. Mais je vous propose d'écouter tout de même, en guise de conclusion, ce qu'il disait cette fois en ON, en juin dernier, à la chaîne locale de télé-internet tv4.fr.
La violence avec laquelle j'ai été traité, humainement, c'est très difficile. Parce que derrière un homme, il y a une famille, il y a des enfants. Et aujourd'hui, voir accuser un de leurs proches, qui a toujours travaillé dans l'intérêt général, pour essayer de positionner cette commune comme la destination touristique des Pyrénées orientales, et avoir, au lieu de la reconnaissance, être traîné dans la boue, et qu'on vous reproche des faits qui n'existent pas, vous comprenez que c'est douloureux.
C'est douloureux, dit Alain Ferrand, qui pourrait être fixé sur son sort dans les mois qui viennent. Le juge d'instruction devrait bientôt clore son enquête dans l'affaire des terrasses. Maintenant, celle de l'Electrobeach et du marché de Noël, elles n'en sont encore qu'au stade de l'enquête préliminaire.
À suivre donc, on va en tout cas nous en rester là pour aujourd'hui. Merci pour cette enquête, Jérémy Demey. Alors je précise qu'on peut la réécouter, on peut la lire, on peut la podcaster aussi sur franceinter.fr et sur l'appli France Inter. Mais surtout, restez avec nous. L'adoption d'enfants étrangers est en chute libre en France et dans quelques instants, on va essayer de comprendre pourquoi avec notre invité.
I'm walking through a dream, I'm walking through the
Un peu de dynamisme et de peps avec ce titre très funky, ça fait du bien. C'était Wake Me Up, le nouveau single des Falls, le groupe britannique originaire d'Oxford.
Secret d'info, Jacques Monin, sur France Inter.
Et nous recevons maintenant Sébastien Roux en duplex des États-Unis, où vous travaillez d'ailleurs. Bonjour.
Bonjour.
Vous publiez « Sang d'encre », c'est un livre consacré à la chute de l'adoption, parce qu'on adopte de moins en moins d'enfants nés à l'étranger en France. On va donc essayer de comprendre pourquoi avec vous, mais déjà ce qu'on peut constater, c'est que cette chute, elle est assez récente, parce que vous expliquez que jusqu'au milieu des années 2000, le nombre d'enfants adoptés continuait d'augmenter.
Voilà, en fait on a une augmentation à peu près régulière depuis le milieu des années 70, qui est arrivé au pic au milieu des années 2000 avec 4136 enfants qui arrivaient en 2005. Et aujourd'hui, on est à peu près à 244. Pour 2020, on est à 244. Donc en l'espace d'une quinzaine d'années, si vous voulez, vous avez une chute de près de 95% du nombre d'adoptions.
Oui, c'est une baisse absolument spectaculaire. Vous dites, je vous cite, « plus aucune famille n'est assurée de voir son projet aboutir ».
Voilà, les délais d'attente, notamment, sont aujourd'hui extrêmement longs. Et aujourd'hui, on est vraiment davantage dans un temps, dans un moment historique, où le sentiment principal qui entoure l'adoption, c'est plutôt le doute, c'est plutôt la suspicion, avec cette idée de mise en question de cette forme de fabrique familiale.
Il y a deux raisons à ça que vous décrivez dans votre enquête. Il y a d'une part le côté, finalement, les gens des pays riches vont chercher dans un vivier qui serait celui des pays pauvres, des enfants pour nourrir leurs besoins de parentalité. Et là, on parle de Madonna, d'Angelina Jolie, de Johnny Hallyday. Et puis, il y a autre chose qui sont, et vous l'évoquiez, des scandales. Par exemple, celui de l'Arche de Zoé.
Il y a eu des scandales. Il y a eu des scandales en France. Effectivement, l'Arche de Zoé, c'est celui qui a peut-être le plus marqué la fin des années 2000.
Alors, on va rappeler en quelques mots quand même pour ceux qui nous écoutent.
Alors, l'Arche de Zoé, c'était une association qui s'était constituée et qui avait essayé d'évacuer, c'était les mots qui avaient été employés, des enfants qui étaient supposés être des victimes de la guerre du Darfour au Soudan. En fait, c'était des enfants qui étaient au Mali. Et ils ont été arrêtés sur le tarmac avec un avion plein d'enfants dont, lorsque les enquêteurs se sont penchés en fait sur les situations, il s'est avéré que la plupart avaient encore des familles, la plupart n'étaient pas des victimes de guerre, et c'était simplement des enfants du Mali qui avaient été perçus pour être envoyés à des familles françaises qui étaient, elles, relativement peu au courant de la situation. C'est vraiment l'association L'Arche de Zoé qui a été reconnue coupable par la justice et dont les principaux animateurs ont été punis.
Et tout ça donc contribue à changer l'image qu'on peut avoir de l'adoption, c'est-à-dire qu'on craint de participer aussi à une forme de trafic.
Oui, tout à fait. Et tout le monde le craint, en fait. Il faut surtout pas se représenter les parents adoptifs ou les candidats parents comme des personnes qui seraient prêtes à tout. Pas du tout, pas du tout. C'est vraiment des personnes qui se posent beaucoup de questions, qui, eux aussi, sont pris dans ce moment d'interrogation et de mise en question du lien adoptif. Personne dans cette histoire ne veut faire du mal aux enfants. La question, c'est plutôt comment est-ce qu'on fait leur bien.
Alors, il y a un autre écueil qui peut expliquer pourquoi, finalement, ce désir d'adopter des enfants à l'étranger a considérablement chuté. C'est qu'il est désormais acquis, et on pourrait penser que c'est un bien, qu'il faut aider aujourd'hui les enfants à reconstituer leur passé, ce que vous appelez le roman de leur histoire, mais ça constitue un frein, finalement, aussi à l'adoption.
C'est un frein, mais effectivement, c'est peut-être un frein positif. C'est-à-dire que il y a une sorte de consensus aujourd'hui, notamment au niveau de la psychologie, pour affirmer qu'il est favorable à un enfant d'être en capacité de maîtriser son histoire, de savoir dans quelles conditions il était adopté. Et effectivement, dans le cas de l'adoption internationale, c'est toujours un peu plus compliqué, puisque par définition, l'adoption internationale, on va chercher un enfant dans un autre pays, et la législation qui entoure le traitement de ses origines est non seulement très variable, mais dans certains pays qui ont peut-être moins les moyens d'avoir une administration, ou qui sont peut-être plus susceptibles d'être soumis à des logiques de corruption, on ne dispose pas aujourd'hui de toutes les informations et ça peut produire effectivement beaucoup de souffrance pour les enfants devenus adultes lorsqu'ils ne savent pas exactement dans quelles situations et dans quelles circonstances ils ont été adoptés.
Et cette nouvelle approche a généré de nouvelles activités en quelque sorte. Vous expliquez qu'il y a des associations qui sont montées, je les cite, Sourire du Népal, Racines thaïlandaises, dont le rôle finalement c'est de contribuer à entretenir et à retrouver les racines de ces enfants. Mais vous parlez aussi de sociétés commerciales qui se sont créées pour enquêter sur les origines des enfants.
Alors les associations, si vous voulez, ce sont surtout ce qu'on appelle des associations par pays d'origine. Elles sont assez présentes en France, qui visent effectivement à maintenir un lien culturel, si vous voulez, entre l'enfant et le pays dont il est originaire. Les activités commerciales, c'est un petit peu autre chose. C'est en fait dans des pays d'origine, des individus qui ont monté des structures qui visent en fait à organiser des tours opérateurs. Alors soit pour aller rencontrer les parents de naissance lorsqu'ils existent et qu'ils ont accepté et dont l'identité est connue, soit beaucoup plus souvent et plus généralement pour aller se familiariser avec la culture, avec la cuisine. Il y a toute une sorte de tourisme des racines qui est en train de se mettre en place autour du monde adoptif.
Alors, autre frein que vous évoquez et qui explique aussi la situation actuelle, c'est que le processus alors est long, on l'a expliqué, mais aussi coûteux. Il faut payer pour des procédures locales, il faut payer un organisme intermédiaire, et vous citez des chiffres, ça peut aller de 8 000 à plus de 20 000 euros, sans compter les frais de séjour sur place si on va chercher son enfant.
Les tarifs, en fait, autour de l'adoption, c'est un peu un tabou. C'est un peu difficile d'en parler, les familles sont pas toujours très à l'aise, mais ce coût, en fait, de l'enfant est très variable. Il y a effectivement des pays, ça, pour les moins chers, entre 4 et 5 000 euros. Et pour les plus chers, comme par exemple l'Afrique du Sud ou autre, c'est autour de 15 000, 20 000. Alors attention, c'est pas le prix de l'enfant, hein, c'est le prix des démarches, le prix des intermédiaires qu'il faut rémunérer. Potentiellement et assez régulièrement, on offre également un cadeau à l'orphelinat, qui peut être un cadeau sous forme financière. On n'achète pas un enfant, hein. C'est bien l'ensemble des coûts induits par le fait d'aller adopter un enfant.
J'entends bien. Cela dit, la situation qu'on décrit fait, vous le racontez aussi, que des intermédiaires cessent leurs activités, qu'il y a quelque part une forme de chômage née de la chute de l'adoption, des employés qui sont licenciés.
En fait, lorsqu'on dit que l'adoption chute, il ne faut pas uniquement se représenter la baisse du nombre d'enfants arrivés. C'est ça, mais ça a énormément de conséquences. Parmi ces conséquences, il y a notamment le fait que la plupart des orphelinats des pays du Sud vivaient en fait de l'adoption internationale, soit à travers la réception, encore une fois, d'une contrepartie financière ou d'un cadeau de la part des parents adoptants, mais aussi plus généralement parce que le départ de certains enfants vers des pays du Nord permettait de payer des couches, payer des repas, payer des salariés, payer potentiellement des éducateurs ou des professeurs. Et avec la chute du nombre de circulations, de déplacements d'enfants, vous avez également une chute des revenus et donc des impacts très forts sur les orphelinats du Sud.
Bien, merci pour toutes ces explications, Sébastien Roux. Alors, je rappelle que vous étiez en duplex des États-Unis, de Tucson, en Arizona, où vous travaillez, où vous êtes installé, que votre livre sort donc en France et qu'il s'intitule « Sang d'encre » et je précise qu'il est édité chez Vendémiaire. Secret d'info, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été préparée par Mélissa Foust et réalisée par Christophe Imbert. C'est Jean-Baptiste Audibert qui a choisi la musique et à la technique, il y avait Raphaël Rousseau et Kevin Pelot. Je vous souhaite un excellent week-end.